France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous êtes au bon endroit pour découvrir des entreprises, des secteurs qui se portent bien malgré cette crise inédite. À ce micro, des femmes et des hommes qui osent, qui innovent, qui bâtissent déjà le monde de demain. Et puis bien sûr, à mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Une pépite de plaisir aujourd'hui dans la France bouge. Et oui, on va parler chocolat. Notre invité jusqu'à 14h, la maison Cluzel, un des plus grands noms du chocolat en France. Alors comment consommons-nous en ce moment? Quelles sont les tendances du monde du chocolat? Comment le numérique révolutionne ce secteur? Autant de questions que l'on va poser à Catherine Cluzel. Elle est aujourd'hui avec nous jusqu'à 14h.
À la une en effet, Emmanuel, le chocolat. Et si je vous parle de chocolat cru, vous dites quoi?
Alors très franchement, je ne connaissais pas avant qu'on prépare cette émission.
Eh bien vous allez connaître, c'est garanti sans sucre raffiné. Le chocolat cru respecte à la fois la santé et l'environnement. Nous le découvrirons avec le fondateur de la start-up Raw Chocolate.
Elle existe depuis 1910, elle se trouve en Normandie. C'est l'une des plus anciennes maisons de chocolat française, la chocolaterie Charlotte Corday, qui ne s'appelle pas ainsi par hasard. C'est la saga du jour dans La France bouge, aux alentours de 13h30.
Bien sûr, les trophées Europe 1 La France bouge. Chaque jour, un entrepreneur vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, nous avons retenu un jeu de cartes qui a une fonction pédagogique. Ce jeu lutte contre le sexisme. Il s'appelle Moi c'est Madame. Ce projet va-t-il nous convaincre? Réponse 13h45.
Et en fin d'émission, demain au travail, on passera un coup de fil chez Ali Baris. Des distanciations physiques, comment organiser les espaces de travail en entreprise.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
La France bouge, l'émission qui met en avant les solutions qui fonctionnent, les secteurs qui vont bien, qui se réinventent. Aujourd'hui un produit que nous adorons surtout Elisabeth et pour lequel la France innove, le chocolat.
Bonjour Catherine Cluzel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice, on peut dire, de la manufacture Cluzel, hein, c'est ça, hein?
Alors non, pas exactement.
Des magasins,
voilà,
des boutiques.
Des petites manufactures Cluzel.
Mais il y en a beaucoup, Vous êtes la fille de Michel Cluzel, qui est décédée malheureusement en mai dernier. Michel Cluzel, c'est d'abord une entreprise familiale qui existe depuis 1948. Des boutiques en France, mais aussi à Londres, à New York. Vous dépendez énormément de la venue des touristes qui viennent acheter du chocolat dans vos boutiques. Alors juste une question, comment allez-vous? Est-ce que le chocolat français fait toujours rêver en ce moment?
Oui, effectivement, le chocolat français fait toujours rêver. Nous avons décidé de lancer une nouvelle collection de 12 bonbons de chocolat 100% bio, malgré les circonstances de la Covid-19. Il faut rester positif. Le chocolat, c'est un ingrédient anti-stress qui apporte du bienfait au moral. Donc, il faut vraiment aller de l'avant.
Il faut aller de l'avant parce que c'est un petit peu dur niveau vente en ce moment. Elisabeth parlait des touristes, mais plus largement dans les grandes villes, la fréquentation est moindre.
Oui, ça a été constaté, hein, sur Paris. Effectivement, on a vraiment une difficulté à avoir des clients en magasin. J'ai 3 magasins sur 5 qui sont dans des quartiers touristiques. Donc vous comprenez bien que pour moi, sans les touristes, ça reste très fragile. Mais voilà, les Parisiens sont quand même présents. Cette nouvelle gamme de 12 bonbons de chocolat 100% bio va leur faire plaisir et je les invite vraiment à venir les découvrir.
Mais avant de découvrir vos petits bonbons chocolatés, il y a Paris, il y a aussi vos boutiques de chocolat dans d'autres villes en France. Est-ce que le constat est le même? C'est-à-dire Paris, on a un petit peu de mal à venir parce que vous venez de le dire, il y a des boutiques qui sont installées dans des quartiers très, très touristiques. Est-ce que le constat est le même dans d'autres villes de France?
Alors, je ne pourrais pas vous répondre pour la ville de France. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nos 2 magasins que nous avons donc aux États-Unis, à New York, sont toujours fermés.
Mais dans les autres villes en France, non?
Non, nous n'avons pas de magasins en nom propre. Ce sont
chez les distributeurs.
Oui.
Et là,
alors,
ça se passe
comment? Ça se passe très bien.
C'est-à-dire?
Ils arrivent à faire à peu près 80% de leur chiffre d'affaires. Donc, contrairement à nous, on est vraiment à 30% de notre chiffre d'affaires.
Alors pourtant, pour faire venir le monde, hein, comme tout le monde, vous avez mis en place des protocoles sanitaires extrêmement forts. C'est indispensable, bon, déjà c'est obligatoire, mais c'est indispensable pour rassurer les gens, pour les faire rentrer dans les magasins?
Oui, alors déjà effectivement pour rassurer, mais c'est surtout de bien comprendre que c'est pour les protéger eux et protéger en fait les responsables et les conseillers de vente.
Alors, quel type de contrôle sanitaire? Vous avez mis les plexiglas aussi?
Plexiglas, tout le gel hydroalcoolique, le port du masque obligatoire, au sol, le marquage également.
Est-ce que l'épidémie a changé notre façon de consommer du chocolat? Est-ce que ça, est-ce que vous avez des retours de la part de vos salariés qui sont sur le terrain, qui voient les clients?
Je dirais que non, pas particulièrement.
C'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle.
Chez nous, ça n'a pas changé en tout cas.
Ah non, ça, je peux vous dire qu'Elisabeth,
nos clients nous disent qu'ils ont toujours besoin
aussi,
de leur chocolat. Alors, ou ils viennent en magasin parce qu'ils acceptent de venir, sinon ils commandent sur notre site internet.
Alors, on va quand même entrer un peu maintenant dans le domaine du rêve. Vous avez un petit peu commencé avec cette gamme bio, ces bonbons. Qu'est-ce que le français aime en chocolat aujourd'hui? C'est quoi la... Alors, le mot va sûrement pas vous plaire. C'est quoi la mode en ce moment?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de mode. De tendance. Alors, la tendance, c'est bio, c'est vegan également. Donc, nous, voilà, on a commencé à faire cette collection sur le bio. Donc, ça demande, en fait, une recherche.
Et ça veut dire qu'il y a une demande? C'est-à-dire que si vous positionnez sur le bio, c'est parce qu'il y a une demande ou c'est pour vous diversifier? Parce qu'en ce moment, il faut récupérer un petit peu tous ces clients qui ont du mal à revenir.
Alors, on a une demande en magasin.
Qu'est-ce qu'on vous demande?
Eh bien, si on a du chocolat bio, justement, puisque les gens, en fait, sont beaucoup plus attentifs à ce qu'ils mangent, aux matières premières qui se trouvent donc dans les produits. Et c'est pour ça qu'on a créé cette gamme pour répondre à cette demande. Donc, on est vraiment sur une sélection de matières premières très, très affinée, puisque c'est assez compliqué de trouver des matières premières bio qui ont du goût, puisque dans nos chocolats, nous sommes sans ajout d'arôme. Donc il faut vraiment que les matières premières aient du goût.
C'est-à-dire que ça vous a obligé à aller retrouver des fèves de cacao qui est indispensable?
Alors, non, pas du tout. Concernant les fèves de cacao, nous avions déjà trois origines de fèves de cacao bio. Ah ouais. C'était plutôt une crème fraîche. Ce qui va parfumer, on va dire, le chocolat. Donc on est sur une crème fraîche d'Isigny-Sainte-Mère, sur un miel des forêts de pins de Lorraine. Donc voilà, ça c'était vraiment la grosse difficulté.
Bah, vous nous donnez faim en tout cas. Ouais,
vous nous donnez envie, Catherine Cluzel, directrice des boutiques de chocolat Maison Cluzel, vous restez avec nous.
Europe 1. Et vous êtes sur Europe 1, vous êtes au bon endroit. La France bouge, on parle de chocolat aujourd'hui. Les Français qui se bougent, même si on l'a entendu, la période n'est pas simple. Mais on se retrousse les manches, c'est ce que nous dit Catherine Cluzel, directrice des boutiques de chocolat Michel Cluzel, qui est avec nous et qui nous accompagne jusqu'à 14h dans La France bouge.
Et en France, on fabrique aussi du chocolat cru. Bonjour Sébastien Langlois.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le dirigeant de Raw Chocolate. Raw, en fait, ça s'écrit 3R. AW, ça veut dire cru.
C'est compliqué. Ça veut dire cru. Ouais. Oui, c'est pas simple.
Non, c'est pas simple. On va s'y faire. Votre entreprise est née en 2008 et vous dirigez la Raw Cacao Factory à Paris. C'est un lieu unique puisque c'est le seul lieu en France où on peut voir comment se fabrique du chocolat cru. Avant d'entrer dans le détail, c'est quoi le chocolat cru?
Alors, traditionnellement, il y a plusieurs étapes quand on fabrique du chocolat. On va prendre des fèves, on va les faire fermenter, ensuite on va les sécher au soleil, on va les ramener en Europe, et là on va les torréfier, comme vous le faites pour le café. Pour le cacao cru, on ne va pas faire cette étape de torréfaction, et donc on va directement les broyer pour en faire ce qu'on appelle la pâte de cacao, et derrière le chocolat.
Alors ma question va être idiote, mais je l'assume parce que je pense ne pas être le seul en France à ne pas savoir ce que c'est du chocolat cru. Qu'est-ce que ça change? À quoi ça sert de ne pas faire cette étape? Quel est le but?
Alors non, c'est une très très bonne question. Effectivement, on nous la pose tous les jours en boutique. La première raison, c'est l'aspect nutritionnel. Au départ, quand Frédéric Marc, mon associé et le créateur de la société, a créé la société, il est arrivé sur un marché qui n'était pas du tout un marché vierge, mais lui, il était nouveau sur le marché.
2008, donc, c'était quand même très avant-gardiste.
Voilà. Il venait pas d'une famille, une belle famille avec toute une tradition, etc. Il partait un peu comme un cow-boy. Il allait faire lui-même son village et donc il a eu la possibilité de se projeter, de se dire comment je ferais le chocolat si j'étais complètement libre, si j'avais pas de contraintes. Et là, il s'est dit, je veux faire un chocolat qui est à l'intersection entre l'exigence éthique, l'exigence nutritionnelle et l'exigence gustative, évidemment. Et donc l'exigence nutritionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cacao, vous avez énormément de nutriments, de principes actifs. Vous en avez plus de 200, hein, c'est l'élément comestible qu'on a le plus. Et on va essayer de les conserver. Et donc, pour les conserver, il ne faut pas monter la température. Donc, quand vous prenez vos fruits et vos légumes, que vous les mettez sur votre toile...
Mais c'est au final, ça quoi ? Un meilleur goût ? C'est comme ça que l'on peut dire ?
Ou juste, non, pas au niveau nutritionnel,
il a gardé toutes ses vertus.
Pour parler très concrètement, le polyphénol, par exemple, qui est très, très présent dans le cacao, puisque vous savez qu'il y a globalement le vin rouge, le thé vert et le cacao qui ont des polyphénols en nombre, vous en avez 85% qui disparaissent lors de la torréfaction.
D'accord. 85%. Donc vous conservez toutes ces vertus essentielles.
Exactement.
Donc c'est quoi ? On peut dire que c'est un chocolat qui fait du bien à la santé ?
C'est un chocolat qui est bon pour la santé. Vous avez les Français, je ne sais pas si vous savez, est-ce que vous avez une idée de combien un Français consomme de chocolat par an ?
Des tonnes.
Moi, j'ai pas d'idée.
Peut-être pas des tonnes, mais 7 kilos.
Moi, des tonnes.
Imaginez l'impact que ça a sur la santé de manger 7 kilos par Français d'un aliment. Cet aliment, un des secrets les mieux gardés du cacao, c'est évidemment que la plupart du chocolat qui est consommé, c'est du chocolat qui est plein de sucre. Et ben, comment on peut faire pour que ce chocolat, en fait, il soit au moins neutre, voire positif pour la santé. Et c'est tout l'intérêt de Raw Chocolate, c'est-à-dire d'axer sur une exigence nutritionnelle en plus de l'exigence gustative et éthique.
C'est bon, franchement, c'est bon ?
C'est délicieux.
Vous l'avez goûté en plus, vous, Elisabeth. Vous en avez déjà goûté.
Moi, j'en ai déjà goûté, je trouve ça bon, mais c'est pour nos auditeurs ou pour vous, Emmanuel, qui n'avez jamais goûté.
C'est un marché de niche ou vous pensez qu'il y a un vrai marché qui serait un marché concurrentiel du chocolat que l'on connaît tous et dont on va parler jusqu'à 14h avec la maison Cluzel ?
Alors, historiquement, c'est un marché de niche. Aujourd'hui, il se développe beaucoup. Le fait qu'il soit bio, évidemment, depuis l'origine, mais ça fait partie d'une logique globale, hein. Le fait qu'il n'y ait jamais de sucre raffiné, le fait qu'on a même des gammes maintenant où il n'y a pas de sucre ajouté. On rajoute juste des fruits pour éviter de rajouter d'autres sucres, ça fait qu'on touche une cible qui est de plus en plus large dans la population, qui sont toutes les personnes qui se disent, en fait, le fait de consommer a un impact sur ma santé et sur la société.
Catherine Cluzel, directrice des magasins, des boutiques de chocolat Michel Cluzel, comment quel est le regard que vous portez sur ce que l'on vient d'entendre, sur le chocolat cru ?
Alors, en fait, pour nous qui sommes cacao févier, hein, donc on transforme la fève de cacao en couverture de chocolat, pour nous, la phase de torréfaction est une phase qui est importante, qu'on ne retrouve pas dans le chocolat cacao. Cru. Pourquoi elle est importante ? Puisque c'est la deuxième étape pour que la fève dévoile ses notes aromatiques. Vous avez la fermentation qui est la première étape et la torréfaction. Chez nous, nous faisons une torréfaction lente, justement, pour essayer de garder les bienfaits, en fait, de la fève.
Et vous, c'est envisageable de vous mettre sur ce créneau, parce que vous êtes mis sur le bio, vous nous l'avez dit tout à l'heure, sur le vegan, on va en parler. Sur le cru, ça peut être une éventualité.
À la date d'aujourd'hui, non, c'est pas une direction que nous souhaitons prendre.
Parce que vous, on est vraiment sur la tradition, on est sur le chocolat
qu'on a tradition.
Toujours connu, mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez esquissé avec le bio, on en a parlé, mais également avec le vegan, je crois que vous avez un chocolat chaud, si je ne dis pas d'ânerie, totalement vegan. Donc là aussi, comme pour le bio, vous sentez qu'il y a finalement une demande de la part des clients qui rejoint un peu l'envie du chocolat cru, par exemple.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le chocolat cru, pour nous, en tant que cacao févier, ne rentre pas, en fait, dans nos valeurs.
Sébastien Langlois, vous avez une boutique, enfin un atelier où l'on voit fabriquer le chocolat cru. La suite, c'est quoi pour vous ?
Alors, on vend aussi beaucoup par Internet. Hein. Aujourd'hui, depuis le confinement, mais même avant, on vendait déjà énormément sur Internet, autant que dans la boutique. La suite, c'est évidemment de multiplier les distributeurs. On est dans un certain nombre de sociétés de distribution, alors je ne vais pas forcément donner de nom, mais qui sont assez axées santé, hein, bio, etc., et de rendre accessible ce produit à tous ceux qui s'intéressent à un produit qui est bon pour la santé en étant bon gustativement aussi.
Ça s'appelle Raw Chocolate. Merci à vous Sébastien Langlois d'être venu
nous
présenter le chocolat cru.
Et Catherine Cluzel, la directrice des boutiques de chocolat Michel Cluzel, reste avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On est vraiment très heureux avec Elisabeth de vous accueillir chaque jour sur l'antenne d'Europe 1 entre 13h et 14h pour La France Bouge et peut-être encore plus aujourd'hui. Ce qu'on fait nos gourmands aujourd'hui avec Elisabeth, on parle chocolat avec Catherine Cluzel, la directrice des magasins Cluzel et fille du fondateur des chocolats Cluzel. Alors justement, quand on parle de marques, il y a beaucoup de grandes marques, le nôtre, Pierre Hermé, Marcolini, Patrick Roger. Comment on arrive à se différencier et à se faire une place quand on est la maison Cluzel à côté de tout ça?
Alors, nous, il faut savoir que c'est notre métier principal, chocolatier. Donc, nous faisons trois métiers, cacao févier, confiseur et chocolatier. Donc, c'est vraiment un savoir-faire familial que mes grands-parents ont créé en 1948. Après, pour se différencier, alors nous, on a notre propre goût Cluzel, qui est un goût qui est vrai, sans artifice. Je disais tout à l'heure, on est vraiment sur des matières premières nobles.
Oui, ils disent tout ça, quand même.
Alors, ils le disent. Nous, en tous les cas, on le dit et on peut le montrer, le prouver pour tous ceux qui le souhaitent. À Danville, aux ateliers de fabrication, nous avons un musée, le Chocolatrium, avec une pièce où l'on peut apercevoir une quinzaine d'ouvriers travailler le chocolat. Donc on ne cache rien. Nous le marquons également sur nos emballages. Il y a notre logo ingrédients nobles. Donc pur beurre de cacao sans lécithine de soja. Donc vraiment, on le dit, mais on le marque également sur notre packaging.
Et puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on jette un œil sur votre compte Instagram, on sent que vous voulez en ce moment prendre par la main chaque client, lui expliquer ce qu'est le chocolat, l'origine de votre chocolat. Est-ce que vous pensez que la reconquête va passer par cette pédagogie? C'est-à-dire, on le dit, on le fait, il y a cette transparence. Est-ce qu'il y a une forme de pédagogie qui est en train d'être mise en œuvre?
Oui, c'est-à-dire qu'on veut rassurer le client. Aujourd'hui, on a besoin d'être rassuré avec ce que l'on vit, on a tous peur. Donc par le discours que nous avons donc dans nos petites manufactures, on va effectivement rassurer. Mais c'est un discours que nous avions déjà, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour nous.
Et c'est vrai qu'il est, je pense, plus que jamais important d'expliquer pourquoi on va payer un chocolat cher, hein, c'est le cas chez vous, chez Cluzel, par rapport à un autre chocolat. C'est capital qu'on comprenne ce qu'il y a derrière pour justifier aussi une histoire, un goût, mais aussi un prix élevé, parce qu'il faut bien le reconnaître, le panier moyen est quand même assez élevé chez vous, mais comme les autres concurrents qu'on a pu citer tout à l'heure.
Alors en fait, nous avons deux gammes de chocolat. Notre gamme manufacture, où on est sur une base à peu près de 100€ du kilo. Et donc cette nouvelle collection, les exclusifs, où on est plutôt sur un prix au kilo en moyenne de 150€, mais qui est justifié par justement d'autres ingrédients encore plus nobles, plus triés, hein, puisqu'on a vraiment choisi des pays propres aux produits que nous avons besoin, style le citron d'Italie, par exemple. Donc ça, bien sûr, c'est obligé que ça soit... Enfin, on justifie par les origines des ingrédients.
En expliquant, vous justifiez prix. Alors ça veut dire que en ce moment, le numérique, est-ce que fait partie de vos solutions? Parce qu'on rentre moins dans vos boutiques de chocolat. Est-ce que vous allez passer par le numérique et mettre le paquet, j'ai envie de dire, sur le digital?
Alors le digital, nous l'avons déjà en amont. On a déjà notre...
Oui, évidemment, vous avez déjà ça. Vous avez déjà dans l'explication avant. Mais là, en ce moment, il y a une urgence parce que vous n'êtes pas la seule à agir ainsi. Donc, est-ce que vous allez mettre le paquet pour vous démarquer justement ?
Oui, bien sûr qu'on va, on va faire ce qu'il faut pour se démarquer. Et de plus, par rapport à cette nouvelle gamme de les exclusifs, on a créé en fait une application, enfin pas une application, un site internet, les Sens du Chocolat, qui vont permettre en fait à chacun de nos clients qui vont acheter notre gamme les exclusifs de pouvoir vivre une expérience sensorielle chez soi, par le biais de leur téléphone. En se connectant, en fait, vous serez accompagné par une voix qui va être très posée. On va vous accompagner pour ressentir les notes
formidable
de tel ou de tel bonbon de chocolat que vous aurez sélectionné sur le site. Ça y est, c'est déjà mis en place, absolument. Donc c'est une première en France. Ça n'existe pas dans le domaine alimentaire.
La dégustation du chocolat, avec
chez soi,
grâce à votre application.
On vit un moment très très particulier en ce moment à cause des restrictions. On en parle depuis le début de cette émission. Vous nous disiez que c'était dur à Paris, mais beaucoup moins compliqué en tout cas pour vos revendeurs en région, où là, on garde des habitudes un petit peu différentes. Selon les informations du service politique d'Europe 1, 38 départements vont entrer là en confinement, a priori annoncé ce soir.
En couvre-feu.
En couvre-feu, des départements, pas encore le confinement, le couvre-feu,
tard,
des départements plutôt ruraux. Est-ce que pour vous, ça vous rassure en tant que chef d'entreprise que ça se passe maintenant, parce qu'il faut sauver la saison de Noël? Il faut absolument qu'au moment de Noël, on puisse circuler normalement et vivre les fêtes de Noël normalement.
Oui, je réponds vraiment qu'il vaut mieux effectivement confiner aujourd'hui, prendre vraiment les mesures pour enrayer cette crise, et effectivement qu'on nous laisse plus de liberté au moment des fêtes pour que chacun d'entre vous puisse venir leurs achats.
Vous, la période de Noël, c'est un tiers,
50% de notre chiffre,
50% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est impossible de rater ce moment.
Mais non.
Donc quitte à être reconfiné ou vivre un couvre-feu, pour vous, en tant que chef d'entreprise, c'est maintenant qu'il faut que ça se passe.
Absolument, oui, c'est maintenant pour nous libérer au mois de décembre.
Alors, on va aller dans une autre chocolaterie qui existe depuis 1910. Elle se trouve en Normandie. Elle est l'une des plus anciennes maisons de chocolaterie française. C'est la chocolaterie Charlotte Corday, qui ne s'appelle pas comme ça par hasard.
Et on va découvrir tout ça avec Charlotte Barrican et Quentin Paillet.
Europe 1, la France bouge, la saga.
À Caen, impossible de passer à côté de Charlotte Corday. Cette icône de la Révolution est restée dans l'histoire pour avoir poignardé le révolutionnaire Marat. Mais elle est aussi le nom de l'une des plus fameuses chocolateries normandes, une institution locale. Jérôme Boutel, maître artisan chocolatier et gérant du magasin.
Charlotte Corday a tout un lien avec notre chocolaterie, puisque donc cette figure de la Révolution française, un peu controversée d'ailleurs, a habité en fait avant d'aller accomplir entre guillemets son œuvre à Paris. C'est en fait de celle d'Auxir Marat, et elle habitait donc chez sa tante, à l'endroit même de la chocolaterie. Et donc elle s'est appelée naturellement Charlotte Corday.
Bombardée par les Alliés en juin 1944, aujourd'hui il ne reste plus rien de la boutique historique. Mais depuis 1910, toute la ville connaît cette chocolaterie et chacun est attaché à l'histoire qu'elle renferme.
Une année, on a un très beau portrait de Charlotte Corday dans la vitrine. Et on l'avait enlevé pour dépoussiérer un petit peu. Et il y a des gens qui sont rentrés pour nous dire « Voilà, faut partir le tableau, hein, parce qu'il y a toute une histoire là !»
Tablettes, tuiles, mendiants et autres bonbons, le fait maison est au cœur du travail de Jérôme Boutel. Le fait maison, mais aussi l'histoire locale, comme le prouvent ses spécialités, notamment avec le délice de Mathilde, l'épouse de Guillaume le Conquérant, autre femme bien connue des Canets.
Le délice de Mathilde, qui est un chocolat vraiment très original, à base d'écorce d'orange confite broyée, qui est mélangée avec des noisettes torréfiées, des épices, enfermées entre deux fines couches de pâte d'amande, et puis on enrobe ça partiellement dans le chocolat noir.
Attaché à l'histoire, mais aussi au savoir-faire, Jérôme Boutel propose des ateliers dans sa boutique, rue Saint-Jean, pour que chacun puisse apprendre et travailler le chocolat comme un véritable maître artisan chocolatier.
J'avais envie de transmettre un petit peu toute cette expérience. Alors donc, il y a une série de cours qui a trait au dessert sur assiette, par exemple. Bon, je fais des desserts assez simples, mais savoureux, avec des petites sauces, des petits coulis, des petits décors, voilà, en jouant sur les textures, le chaud et le froid, l'acidité, vous voyez, toutes sortes de choses, le croquant. Et d'autres cours, on fait des ateliers macarons, on fait des ateliers chocolat, justement, on initie les gens comment utiliser donc et transformer le chocolat.
Jérôme Boutel travaille entre 7 et 8 tonnes de chocolat par an, et malgré la crise et le confinement, le chocolatier est optimiste. Sa chocolaterie est en forte croissance. Les Canets et les Français en général ont besoin de se faire plaisir. Et quoi de mieux que le chocolat?
Ça fait rêver, hein, toutes ces chocolateries. C'est indispensable en France. C'est vraiment l'art du Made in France, à Catherine Cluzel. Vous et toutes ces petites chocolateries qu'on trouve dans toutes nos jolies villes de France.
Oui, absolument. Bah, ça, je veux dire, ça va concrétiser le fait que on est vraiment une ville de la gastronomie.
Un pays même.
Un pays même. Et où le chocolat est effectivement très important. Catherine Cluzel, la directrice des boutiques Michel Cluzel, est avec nous, et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
Et il est
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et c'est parti pour les trophées Europe 1. La France bouge, elles osent et elles se lancent. Nous les avons choisis, on les écoute chaque jour pitcher devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Aujourd'hui, Catherine Cluzel, la directrice des boutiques de chocolat Michel Cluzel.
Et dans toutes les crises, il y a des opportunités. C'est votre cas, Elsa Misquet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 33 ans, vous êtes de Marseille, vous êtes la cofondatrice de Moi, c'est Madame. C'est le nom de votre jeu de cartes que vous proposez, un jeu de cartes collaboratif pour sensibiliser les femmes et les hommes à la question du sexisme. Donc vous avez osé lancer ce jeu au mois de mai. Alors d'où vous est venue l'idée? De quoi s'agit-il? C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Merci. Donc en fait, à la base, moi je co-anime un podcast qui s'appelle Yes, qui est un podcast féministe qui met en avant des victoires de femmes contre le sexisme. Et il y a à peu près un an, j'ai rencontré Axelle Gay, qui est game designeuse à Marseille. Et en fait, on s'est dit que ça serait intéressant de prolonger l'expérience du podcast, puisque apparemment ça fait beaucoup de bien aux femmes qui nous écoute, et de faire un jeu en fait qui permette aux femmes de s'entraîner quand elles sont chez elles avec leurs amis ou leur famille, puisque souvent quand on subit des attaques sexistes au quotidien, on est sidéré, on ne sait pas quoi répondre. Donc là, l'idée, c'était de se dire un peu comme des cours de self-défense, un jeu qui permette vraiment de s'entraîner et qui permette aussi aux hommes à la fois de comprendre ce qu'on peut vivre au quotidien et de devenir un peu des alliés, c'est-à-dire de prendre la parole, de prendre position face à ce type de situation, donc le sexisme ordinaire en fait, tout simplement.
Voilà, vous n'avez même pas eu besoin de la minute pour que ce soit extrêmement clair. Merci en tout cas beaucoup pour ce pitch, Elsa.
Donc c'est un jeu, hein, faut le préciser. Oui. Donc il y a combien de cartes?
220 cartes.
224, on peut jouer à combien?
On peut jouer entre 3 et 8 joueurs à peu près.
Voilà, ce qui juste ce qui manquait dans votre pitch, c'est la façon dont on joue, parce qu'à la base, c'est quand même un jeu. Alors Elsa, chaque jour, il y a une experte de la CCI France, de la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui épluche, qui analyse les dossiers des personnes qui viennent présenter, qui viennent pitcher, comme on dit. Cette experte, c'est Nathalie Carré. Les forces, les faiblesses de Moi, c'est Madame. Écoutez la réponse.
4 points positifs pour Moi, c'est Madame. La marque, facilement mémorisable, Moi, c'est Madame. Le jeu, pour parler d'un sujet complexe et clivant, même parfois entre femmes. 3e point, le croisement entre le podcast Yes et le jeu. Ça permet de prolonger l'inspiration. Et puis, le côté entraînement du jeu qui fait que, en fait, on augmente la confiance en soi des femmes par l'expérimentation. On est dans « je peux le faire ». 2 points améliorés toutefois, peut-être une incohérence entre une marque qui incarne le respect, la bienveillance et une certaine élégance, et certains mots de vocabulaire qui font soit penser à un combat homme-femme, warrior, mater le patriarcat, ou qui manquent d'élégance, une meuf, badass. Peut-être ça nuit un petit peu à l'image de Moi, c'est Madame. Et puis, 2e petit point, montrer plus le côté double effet du jeu et le fait qu'on puisse jouer autant avec des femmes qu'avec des hommes. Il y a l'entraînement pour les femmes et la prise de conscience pour les hommes. On le sait, c'est en avançant ensemble que la situation des femmes évoluera.
Alors c'est très intéressant ce que nous dit Nathalie Carré. On peut y jouer à plusieurs hommes et femmes mélangés, mais elle nous dit qu'il faudrait que ce soit vraiment limite qu'on joue de manière à parité, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit sur ce sexisme.
Bah, je pense qu'il y a des moments où les femmes ont besoin d'être en non-mixité, comme on dit, c'est-à-dire entre elles pour pouvoir vraiment se lâcher et pas avoir peur de la réaction des hommes ou du regard des hommes. Et après, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant, vraiment le fait que les hommes peuvent et doivent, à mon avis, prendre une place dans ce combat et que, justement, avec ce jeu, on leur propose un outil dans lequel ils peuvent complètement s'impliquer.
On gagne quoi dans ce jeu? C'est quoi le but du jeu?
Alors, le but du jeu, alors, c'est un jeu collaboratif. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de perdant. Donc en fait, ce qu'on gagne à la fin, c'est comme un peu dans les tests, vous savez, les tests dans les magazines féminins, quel est votre profil, etc. Mm-hmm. Donc on a repris un peu ce concept-là, et du coup, il y a 5 profils. Donc selon si on est un peu plus timide, un peu plus audacieuse, par exemple l'audacieuse, c'est le profil de celle qui va avoir beaucoup de répliques, du tac au tac, répondant, etc. Après, il y a le profil de la sœur, c'est celle qui va aider les autres femmes à répondre quand elles n'ont pas d'idée de quoi répondre ou quand on parle dans leur dos et qu'elles vont, elle va les défendre en fait, face à d'autres attaques dans leur dos. Et on a 5 profils comme ça. L'idée, c'est qu'en fait, ils sont tous mis en avant et qu'à force de jouer, on peut développer ses compétences sur les autres profils.
Et pour le moment, le jeu est en précommande. Vous comptez
le lancer
pour le moment de Noël?
Là, en fait, il va bientôt arriver sur les plateformes de logistique qui vont les envoyer. Donc en fait, d'ici 2 semaines à peu près, ils vont commencer à partir.
Et on a oublié de donner le prix, voilà.
Il coûte 25 euros.
Et ben voilà, 25 euros. Catherine Cluzel, directrice des magasins Cluzel, magasin de chocolat bien connu. Vous auriez envie de jouer? Vous auriez envie là qu'on sorte une partie et qu'on joue tous ensemble?
Bien, j'aurais beaucoup aimé, vraiment. Mais en tous les cas, voilà, j'ai vraiment pris note du nom, en fait. Et...
Moi, c'est Madame.
Voilà, moi c'est Madame.
C'est vrai qu'on retient très facilement.
Je vais aller regarder ça de suite.
Bah, c'est gentil, merci.
Dans 5 ans, vous voyez où et comment? Vous rêvez de quoi?
Alors, nous, on veut développer plusieurs choses, des extensions sur des thématiques. Par exemple, là, on veut faire une extension LGBT sur les thématiques de la lesbophobie, transphobie et ce genre de choses. On veut développer une version pour les adolescents, parce que les adolescents, collège-lycée, ils ont des problématiques différentes, en fait, de celles qu'on a actuellement dans le jeu.
Le harcèlement, par exemple?
Alors, le harcèlement qui a des formes différentes, qui va être par exemple plutôt sur Snapchat ou maintenant sur TikTok, ce genre de choses. Alors que nous, les témoignages qu'on a, ils sont plus des femmes de entre 20 et 35 ans ou plus, qui n'ont pas du tout les mêmes expériences qu'au collège et au lycée. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire en partenariat avec des associations et on va aller dans plusieurs lycées pour récolter un maximum de témoignages sur ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Après, on aimerait bien aussi faire une version pour les enfants.
C'est du jeu militant, en fait, dans lequel vous êtes en train de vous nicher.
Oui, c'est de la prévention, de sensibilisation, mais c'est vraiment un jeu. C'est-à-dire que c'est pas ennuyeux à jouer, c'est drôle.
C'est peut-être le seul point où des fois on se dit, est-ce que vraiment on s'amuse? Vu qu'effectivement c'est militant, c'est engagé, c'est... Mais moi qui ai regardé toutes vos démos là sur votre site internet, a priori les gens qu'on le voit, ils ont l'air de plutôt rire. Donc à la fin on rigole, c'est une sorte de, vous avez peut-être pas aimé l'image, mais une sorte de blanc manger coco féministe et engagé.
Exactement, l'idée c'est vraiment pas dédramatiser dans le sens dire que c'est pas grave ce qui se passe, mais disons de rendre le sujet un peu plus léger pour que effectivement on puisse en rire, parce qu'en fait l'humour c'est une arme clairement très efficace pour parler de sujets difficiles.
De les dédramatiser et de pouvoir les poser sur la table surtout.
Exactement.
Ça s'appelle Moi, c'est Madame. Merci à vous Elsa Misquet, vous êtes la cofondatrice.
Oui, et si vous avez envie, vous aussi, de venir présenter votre projet, d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple, vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge, dernière partie de votre émission Demain au travail. Nous sommes toujours avec Catherine Cluzel, la directrice des boutiques Michel Cluzel, marque bien connue de chocolat en France.
Et avec vous Sandrine Launay, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice, la présidente de Zali Baris. Votre métier, c'est la transformation d'espace en entreprise. Et ça tombe bien puisque nous travaillons différemment. Nous organisons, nous gérons notre espace de manière différente depuis le début de la crise. Vous proposez quoi concrètement en ce moment?
Concrètement, si vous voulez, au démarrage, il a plutôt fallu réagir que réfléchir, alors que Zali Baris prend plutôt le sujet en réfléchissant aux usages.
Mais là, il y a urgence.
Alors, il y a eu une première urgence qui était liée au confinement, bien qu'on avait quand même des délais, on savait à peu près où on allait, donc on pensait que c'était de manière, on se disait, on part sur 2 ou 3 mois. Évidemment, les premières choses qu'on a mis en place, c'est de faire en sorte de respecter les règles sanitaires. C'est-à-dire que c'est le devoir quand même de l'entreprise de faire attention à ses collaborateurs. Donc, il n'y a pas eu d'énormes transformations de singularité ou de transformations de fond. Il y a eu beaucoup de transformations de forme.
Alors, la forme, ça donne quoi?
La forme, ça donne des distanciations sociales, évidemment. Ça donne organiser des flux de circulation, c'est-à-dire que là, il faut faire très attention. Et puis, l'accélération également. Alors, ce qui a été le plus, j'allais dire, difficile, c'est garder l'appartenance à l'entreprise tout en respectant cette distanciation physique. Le fait de fermer certains lieux qui étaient d'usage commun, les cuisines, certaines toilettes, la distanciation.
Et toute la difficulté, c'est de garder finalement une forme de convivialité propre à l'entreprise. C'est ça aujourd'hui la difficulté?
La difficulté, c'est de garder de l'appartenance à l'entreprise. C'est-à-dire qu'au démarrage, tout le monde s'est dit, c'est sur un temps donné, donc on garde, il y a eu même un effet effet, j'allais dire Zoom, hein, tout le monde connaît, mais bon, un effet des réunions à distance. Mais après, on s'est aperçu avec le temps qu'on perdait l'innovation, on perdait la créativité, on perdait l'engagement à l'entreprise, et ce qui est fondamental, la raison d'être.
Alors, voilà, comment, donnez-nous des exemples, parce que on a regardé un petit peu avec Emmanuel, il y a des salles de réunion que vous avez complètement métamorphosées. On a presque envie d'aller et d'y passer la journée. Non, mais c'est hyper joli ce que vous avez mis en place. Non, mais décrivez-le nous pour nos auditeurs, qu'on comprenne tous.
Voilà. Alors pourquoi, en fait, on est parti d'un principe, c'est que quoi qu'il se passe, il fallait vivre une expérience. On ne pouvait plus vivre les expériences telles qu'on les vivait avec les personnes, étant donné qu'on n'est plus que quatre par salle. Donc on a créé une expérience physique. C'est-à-dire qu'on plonge les collaborateurs dans un environnement qui est lié à leur identité. Entre autres, je vous parle d'un hôtel où on a créé un espace de coworking Maïwo. Il est centré sur la forêt, donc c'est peut-être celui-ci que vous avez vu par ailleurs.
Non, c'est une salle de réunion. On voit le avant après la salle de réunion. Voilà. Elle est normale. Et après, on voit des petits poufs posés sur des petits tapis, des coussins, des petites tables espacées à 1m50 les unes des autres, avec des petits coins pour trois personnes. C'est magnifique.
Eh ben écoutez, je vous remercie. Mais l'idée, c'est d'arriver à procurer des sensations, justement, qui sont importantes pour vivre l'entreprise. On peut plus les vivre à 10 ou 15 dans une salle. Donc, du coup, on s'est dit à 4, comment on fait que cet endroit transporte l'identité de l'entreprise, c'est ça qui est le plus important, arrive à le faire matériellement parlant, vu qu'on ne peut plus le faire physiquement.
Et dans l'avenir, ça va être encore plus vrai, puisque là, toutes les entreprises sont en train de regarder leur bureau en se disant, si on doit rester tendanciellement sur une vague importante de télétravail, on n'a pas besoin des mêmes bureaux, on n'a pas besoin de la même surface, donc il va falloir réinventer tout cela et recréer, comme vous le disiez si bien, une forme d'appartenance, mais une appartenance partagée et en pointillé à l'entreprise.
Bah, de toute manière, le télétravail, c'est pas un phénomène nouveau. Simplement, là, c'est pareil. Il s'est complètement accéléré. Après, on a des personnes, si vous voulez, des entreprises qui étaient préparées à ça. Mmh. Donc, ça s'est passé plus facilement. Et puis, il y a des entreprises pour qui ça a été une nouveauté. Mmh. Alors, un exemple simple, vous prenez IBM. En 2017, ils avaient décidé de mettre 40% de leur effectif, de leurs collaborateurs en télétravail. En 2019, ils ont fait revenir tout le monde en disant, oulala, on perd de l'innovation, on perd de la créativité, on perd la appartenance. Donc, ça, c'est une transformation qui se réfléchit. Mmh. Donc, vous avez raison, ça doit être pérenne dans le temps. Le télétravail, c'est ses avantages et ses inconvénients. Pour moi, de toute manière, à 60%, c'est le maximum qu'on puisse faire. On ne peut pas tout faire en télétravail. Et on doit, par contre, construire l'entreprise de demain avec ça, bien sûr.
Catherine Cluzel, notre témoin du jour, vous aussi, vous changez, vous modifiez des choses, l'agencement de vos ateliers, par exemple, pour que chacun puisse être en sécurité tout en étant dans un espace convivial et qu'il se sente bien dans son atelier Cluzel.
Oui, absolument. En fait, on a les ateliers, on ne peut pas les modifier en eux-mêmes puisqu'on a toutes les machines qui sont déjà présentes. Par contre, on a organisé en fait les horaires de chacun par atelier pour rassurer nos collaborateurs. Et concernant les bureaux, en fait, on a mis des séparations.
Reste convivial parce que tout ça c'est bien, mais c'est ce qu'on disait avec vous, Sandrine Launay, c'est qu'il faut que ça reste convivial et qu'on ait l'impression d'être vraiment d'être dans l'entreprise.
Alors oui, ça reste convivial. La seule chose, c'est que voilà, les horaires étant revus, il y a moins de monde de telle heure à telle heure. Donc voilà, c'est plus restreint.
Merci en tout cas, contact. Sandrine Launay, fondatrice de Zali Baris, d'être nous avoir raconté comment vous réaménagez les espaces.
Et un grand merci également à Catherine Cluzel, la directrice des magasins Michel Cluzel, marque de chocolat, à qui on va souhaiter le meilleur des Noëls possibles, parce que ça se prépare dès maintenant, cette période si importante.
Et on se retrouve demain, 13h, pour une nouvelle France Bouge. Emmanuel, nous parlerons chaussures, je crois,
demain. On va aller faire des emplettes demain, on sera avec le groupe Eram.